Le grand, le divin miracle de la radio nous offre l'opportunité de vous parler à l'antenne.
Ça y est, le contact est établi.
Qui êtes-vous ?
Un instant, je vous prie.
D'accord.
Détendez-vous et répondez aussi simplement que possible.
Votre nom, s'il vous plaît ?
Cinérama.
Je le savais.
Mais attendez, mais qu'est-ce que ça signifie ?
Actualité cinéma et tout le reste.
Vous imaginez ça ? Vous voyez le tableau ?
Le public va en raffoler.
Bonjour et bienvenue à Cinérama, une émission qui va parler des films qui sortent le 24 juin ou qui sont déjà sortis sur les écrans. Bonjour Marine.
Bonjour à tous.
Et bonjour Manu.
Bonjour.
Alors, il y a beaucoup de tireurs d'élite, en tout cas pas mal de bastons dans les films dont nous allons parler aujourd'hui. Et ce sera le cas notamment dans Gunman. En même temps, c'est presque un nom prédestiné, hein, voilà. Film de Pierre Morel, ça, ce sera le pire. Et puis, le meilleur, ce sera Mustang, film féministe franco-turc. Quant à toi, Marine.
Et moi, eh bien, je vais vous parler de La résistance de l'air de Fred Grivois, bah, également donc, sur un tireur d'élite, ainsi que du nouveau film de Tsui Hark, La bataille de la montagne du tigre.
Et puis toi, Manu ?
Eh bien, le dernier Pixar, vice-versa, où il n'est pas question de tireur d'élite. Et puis, un film un peu expérimental, The Duke of Burgundy de Peter Strickland.
Et puis cette fois-ci...
Et si j'ai le temps, un petit mot sur un film de Corman, la caverne de la bête hantée. Non, je dis une bêtise, en fait. Hein. La créature de la mer hantée. Voilà.
Ça me paraît plus juste. Merci, Manu. C'est Cinérama qui députe.
Bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Cinérama.
Connerie, je vous dis. Et même saloperie, hein.
Pierre Morel, à qui l'on doit Taken, Banlieue 13 ou From Paris with Love, a été biberonné chez Besson, EuropaCorp produisant l'essentiel de ses pépites. Mais changement de programme avec ce Gunman, produit par un studio qui nous a offert Matrix, L'Arme Fatale ou Die Hard. Donc autant dire des films chouchoutés par ceux qui aiment les films de baston avec autre chose que des nions et des tartes dans la gueule. Avec un titre pareil, j'aurais pu me méfier, Gunman soit l'homme pistolet.
Moi aussi j'ai fait de belles saloperies. On croyait être dans le bon camp. C'était pas vraiment le cas.
Doublage dégueulasse, parfaitement Marine. Je crois que c'est justifié de le dire. Tout commence plutôt bien. Alors nous sommes au Congo, c'est le chaos. Alors pour favoriser le travail des ONG, des sociétés privées de sécurité veillent sur les humanitaires. Alors Jim Terrier fait partie de cela. Mais il n'est pas que cela. C'est aussi un tireur d'élite et plutôt excellent tant qu'à faire. Mais peu de personnes le savent. Et sa part d'ombre va lui jouer des tours. Il va devoir disparaître pour sauver sa peau. Alors quitte à faire une croix, hein, sur une histoire d'amour qu'il a avec une jeune médecin. Mais quelques années après, et un peu de réflexion, le voilà de retour en Afrique pour faire vraiment le bien. Mais malheureusement, eh bien lui qui aspirait au don de soi, le voilà persécuté. Le film s'attache ensuite à démêler les fils d'une intrigue dont on nous donne beaucoup trop d'éléments pour qu'on attende quoi que ce soit.
Sur les trois tireurs, t'es le seul encore vivant. La compagnie veut ma peau.
Tu m'as piégé ! Que la chasse commence !
Je ne sais pas si vous sentez la haine quand même, hein, dans ces extraits. Alors disons-le nettement, si on ne s'attache pas au réalisateur et qu'on jette un coup d'œil au casting, eh bien on se dit que Sean Penn n'est pas arrivé par hasard sur le projet, qu'il a trouvé matière à étoffer son jeu. Eh bien non, il a juste passé un temps de préparation à manger protéiné, à gonfler ses muscles de cinquantenaire, tout comme Javier Bardem, qui dit-on a touché alors 5 millions de dollars pour sa prestation, tout juste passable et plutôt modeste, hein, des tarifs qui sont pour le moins indécent pour un film qui fait reposer sa morale sur des hommes blancs qui tirent profit de situations dramatiques en Afrique pour s'enrichir. Là, on se dit que faire voilà, un sujet sur là-dessus et puis empocher les millions et pas faire grand-chose finalement, c'est un peu cynique.
Alors, c'est le grand nettoyage. T'es le dernier objectif. Tu représentes la dernière menace.
J'en ai de la chance.
C'est tout un résumé du film, là. Si on ne va pas faire l'injure de dire à Pierre Morel que ses séquences de baston sont ratées, de ce point de vue-là, Sean Penn est un pro du corps à corps, du poignard dans le cou ou du mawashi dans les roustons, il n'en va pas de même, hein, du scénario et de la mise en scène beaucoup trop voyante qui s'empresse de tout surligner dès qu'on pourrait avoir le moindre doute, hein, sur un personnage. Idem, quand on arrive dans une ville, Morel ne peut pas s'empêcher de nous la faire survoler. Ah tiens, c'est Barcelone avec ses collines et puis tiens, ses arènes. Et quant au scénario, eh bien, l'histoire est tirée d'un roman. Le roman, c'est la position du tireur couché du...
Manchette. Jean-Patrick, voilà. Manchette. Jean-Patrick, ça avait déjà Manchette. Été adapté au cinéma.
Avec Delon et...
Avec Delon, oui.
Alors, je ne sais pas si les personnages ont bougé, Mais alors là, l'humanitaire qui, une fois sa mission finie, a sa petite vie partagée entre son appartement, inspiration Gaudi, son ranch de campagne et conduit sa BMW comme si le monde, BMW, comme si le monde allait bien, a quelque chose de déroutant, voire dégoûtant. Et là, je ne sais pas si ma langue vient de fourcher. Le dialogue entre le méchant qui voit le monde selon ses intérêts, alors faisant fi de la misère du monde, et puis Sean Penn qui vit un moment de rédemption et se fait traiter de naïf, donne envie de repasser le bac de philo pour savoir combien serait notée une telle confrontation d'idées. Gunman est donc un film d'action qui n'est qu'un film d'action, voulant se donner une conscience politique et une caution artistique et politique, parce que Sean Penn est plutôt engagé politiquement. Et puis Sean Penn, alors étrange, parce qu'il est plutôt habitué au beau rôle avec Malick, The Tree of Life, Eastwood, Mystic River, ou Inaritu, 21 grammes, et aussi un réalisateur qui a plutôt réussi ses films, The Pledge ou Into the Wild. Mais là, si Sean Penn a mal à la tête dans Gunman, c'est un des ressorts dramatiques, parce qu'il peut parfois sombrer. Le spectateur ne risque pas, lui, la cure de Doliprane. C'est Gunman, ça sort le 24 juin.
En même temps, on ne pouvait pas s'attendre de la part du réalisateur de Taken, grand-chose. Mais ce qui est marrant, c'est que Sean Penn, il va peut-être emprunter la même voie que Liam Neeson. C'est des acteurs crédibles qui, d'un coup, se mettent à faire des films d'action comme ça. On a l'impression que c'est un peu une case un peu obligée à un moment donné, une voie un peu obligée. C'est assez curieux, en fait.
Bah, y a des impôts à payer aussi. Enfin, je pense que c'est malheureusement ça.
Ce serait ça
la réalité des choses. Mais oui,
ou alors Sean Penn va financer un de ses films, auquel cas, enfin bon, pourquoi pas. Voilà. Et Javier Bardem, je me suis toujours pas expliqué ça parce que lui, il réalise pas de films, mais il a peut-être des tuyauteries à changer dans sa maison. Voilà, c'est Cinérama qui continue.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama,
c'est un passe-temps surprenant.
Alors, échaudé par une bande-annonce plutôt ratée, un graphisme conventionnel en apparence, c'est un peu à reculons que je suis allé voir le nouveau Pixar. Alors, d'autant plus que les 3 dernières productions de la firme qui révolutionna quand même le cinéma d'animation avec une suite de chefs-d'œuvre, notamment Toy Story et Monstres et compagnie. Alors, elles étaient franchement décevantes, s'orientant de plus en plus vers des canons consensuels et calibrés de Disney. Alors, Cars 2 et Rebelle remettaient sérieusement en cause l'avenir de Pixar, tandis que Monstre Academy n'était qu'une pâle imitation de son illustre modèle, le génial Monstre et compagnie, réalisé entre autres par Peter Docter, que l'on retrouve donc aux manettes de Vice Versa, co-réalisé aussi par un certain Ronnie Del Carmen. Alors, force est de constater que c'est plutôt une bonne nouvelle, car le résultat s'en ressent. Vice Versa est assurément le meilleur Pixar depuis Toy Story 3, et déjoue en partie les craintes redoutées. Alors, si l'animation manque globalement de relief, le récit est en revanche fascinant, d'une inventivité constante, d'une audace assez peu courante pour un film d'animation. Alors, les auteurs tentent le pari de matérialiser des idées abstraites pour raconter une histoire, on va dire, intimiste. Le centre de contrôle, situé dans le cerveau d'une jeune fille de 11 ans, Riley, est dirigé par 5 émotions, figurées par des personnages dessinés à gros traits. Joie, tristesse, peur, dégoût et colère. Alors, ces émotions caractérisent de manière schématique l'enfance dans tous ses états, mais la vie de Riley va être bouleversée lorsque ses parents emménagent dans une autre ville. Les émotions vont tout faire pour lui redonner le moral jusqu'au jour où joie et tristesse se retrouvent perdues dans l'esprit de Riley. La jeune fille va alors sombrer dans une déprime, pour ne pas dire une dépression peut-être, on peut carrément dire ça en fait. Alors on écoute un extrait où peur, dégoût et colère se retrouvent seuls et désemparés face à une situation inédite, soit la crise existentielle de la jeune fille.
Riley a l'air de faire super la tête. Mais pourquoi elle fait super la tête?
Quelle tête tu veux qu'elle fasse? Toutes ces îles sont hors service.
Joie saurait faire ce qu'il faut.
Mais oui, c'est ça! Jusqu'à ce qu'elle revienne, on n'a qu'à faire ce qu'elle ferait. Voilà!
Bonne idée! Colère, peur, dégoût. Tu trouves vraiment qu'on respire la joie de vivre?
Au fait, Riley, j'ai une grande nouvelle. J'ai trouvé un club de hockey junior ici, à San Francisco. Et écoute ça, les sélections ont lieu demain après l'école. Quelle chance, hein?
Rien compris.
Qu'est-ce qu'on répond, là?
D'accord, et toi, t'as qu'à te faire passer pour quoi?
Tu n'as pas hâte de refaire du patin à glace?
Oh si, ce serait génial.
Mais c'était quoi, ça? C'était pas joyeux du tout!
Non, parce que la joie, je sais pas faire.
Ah ouais, mais j'avais pas remarqué.
Vous avez vu ce que j'ai vu?
Oh, oui, absolument. Qu'est-ce qui lui prend?
Faut qu'on la cuisine.
Enquêtons. Mais en douceur, qu'elle ne remarque rien.
Alors, comment s'est passé ce premier jour d'école?
Attention, elle nous cuisine.
Je passe mon tour, vas-y, c'est toi qui fais la joie.
Quoi? D'accord.
Bien, enfin, je crois. Je sais pas trop.
Oh, magnifique, ça c'était vraiment trop la joie.
Alors le périple insensé de joie et tristesse pour retrouver le centre des contrôles va les amener vers des territoires étranges et inconnus, dont la production des rêves, les pensées abstraites ou encore la mémoire à long terme. Alors audacieux et quand même d'une intelligence assez rare, Vice-Versa est une réflexion quasi introspective sur le deuil de l'enfance et le passage de cet état à celui de l'adolescence. Alors il s'agit en effet de raconter de la manière la plus fluide possible la construction d'une identité. Peter Doctor s'affirme comme un brillant metteur en scène et tisse une œuvre cohérente et inédite, loin des schémas binaires du cinéma d'animation. Alors pas de gentil ni de méchant dans Vice-Versa, juste une plongée dans la psyché d'une jeune fille qui va sortir du monde de l'enfance et ressentir la souffrance et le manque. Alors les idées de scénario fusent toutes les 5 minutes, ne parasitant jamais la limpidité d'une histoire assez drôle et émouvante aussi. Alors l'émotion culmine même dans un dernier quart d'heure magnifique et tranche avec la sensiblerie coutumière des productions Disney ou DreamWorks. Alors une œuvre cérébrale destinée aux enfants, mais aux adultes aussi, on peut dire. Alors dommage que la forme soit un peu moins singulière que le fond, l'esthétique un peu rose bonbon affadie par ses couleurs un peu ternes et le trait sommaire des personnages ne parviennent pas néanmoins à étouffer la nature ludique et conceptuelle du film. À l'émotion en fait tout en retenue. Enfin moi je trouve que c'est une vraie surprise, surtout que là vu la bande-annonce, j'étais assez sceptique au départ.
Ce qui est très étonnant, c'est ce dessin qui ressemble... Alors j'ai l'impression de voir des jeux de la Wii de cette console. Enfin, c'est assez étrange, oui.
Oui, il y a un côté très... Alors, je ne sais pas si ça participe à un côté presque expérimental du film. C'est vraiment le dessin est un peu... Il a affadi, presque volontairement, je pense. Enfin, c'est-à-dire que les formes sont très simples. Il n'y a pas beaucoup de recherches. Il faudrait peut-être aller interviewer les réalisateurs de ce dessin animé pour savoir pourquoi ils ont fait quelque chose qui peut paraître un peu grossier comme ça.
On va peut-être consulter le dossier de presse, finalement. Voilà, Disney se retrouve entre deux films où il y a des armes. Oui. Nous allons passer à la résistance de l'air.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations ?
Cinérama.
On va regarder ça.
Il y a toi, la cible et l'air. C'est ce qu'explique Vincent Cavel, champion de tir au fusil à Renault, nouveau venu dans le club où il s'entraîne. En dehors de ses séances, la vie de Vincent est plutôt ordinaire, mais d'un équilibre précaire que viennent bientôt faire vaciller des imprévus financiers. Obligé de prendre en charge son père, une vieille ordure sénile et ruinée, étranglé par les traits d'une maison en construction, Vincent perd pied et sa famille se délite. Renault revient alors avec une proposition opportune, un contrat très bien payé avec une victime anonyme que Vincent n'aura qu'à exécuter sans rien demander. En acceptant, il met le pied dans un univers aussi dangereux que séduisant.
Ça se passe comment pour toi en ce moment ?
J'ai un problème. Devoir du fric que je pourrais pas rembourser.
J'ai une solution pour toi.
Je voudrais savoir d'où vient cet argent.
Mais pourquoi t'as fait ça ?
Pour nous.
Ce que tu fais, tu le fais pas pour moi. Tu le fais pour toi.
Je veux pas le faire.
On travaille pour des gens qui n'aiment pas se compliquer la vie.
Il s'y revient pour se venger.
Ouais, je l'attends.
Alors, la presse a été un petit peu dure avec le film auquel elle reproche une mise en scène, je cite, « conventionnelle », arguant que la résistance de l'air raterait sa cible. C'est au contraire la première fois, je trouve, depuis longtemps que l'on se trouve devant un polar français réussi, depuis probablement Un prophète. Et justement, eh bien, la résistance de l'air est signée de Fred Grivois, assistant réal de Audiard, et l'on ressent une influence certaine sans pour autant que l'ombre du maître ne gangrène ce premier film. C'est avec ambition que le film tente de mixer polar, réalisme social et portrait psychologique, ce dernier aspect étant grandement transcendé par la parfaite interprétation de Reda Kateb. Il trouve la sobriété idéale pour évoquer les différents états que traverse son personnage, sa descente inextricable dans le mal et sa métamorphose au contact du mafieux qui le fait entrer dans une nouvelle vie. Il y a des acteurs que l'on ne se lasse pas de regarder jouer, dont la seule présence à l'écran suffit à rendre un film captivant, et c'est le cas ici pour ce binôme de comédiens, pourtant aux antipodes l'un de l'autre. Johan Eldenberg, que l'on avait connu dans le très lacrymal Alabama Monroe, interprète l'inquiétant et charismatique Renault avec une ambiguïté qui en fait l'un des personnages de polar les plus intéressants que l'on ait pu croiser au cinéma récemment. Dommage que la toute dernière partie paraisse un peu bâclée, ou du moins qu'elle souffre de mauvais choix de mise en scène avec notamment un plan final fixe que je pense emprunté à Cachet de Haneke. Je pense que ce que ça vient de là. C'est vrai que cette dernière partie est un peu en dessous de l'ensemble du film, mais pour moi vraiment ça reste l'un des meilleurs polars français que j'ai vu depuis pas mal d'années, quoi. Donc Je vous le conseille, vivement.
Si vous aimez les essuie-glaces et les tranquillisants sur pellicule...
Cinérama.
Je suis allergique.
C'est Mustang de Deniz Gamze Erguven. Alors nous sommes dans un endroit reculé de la Turquie, entendez, loin d'Istanbul, de la capitale Ankara ou d'une station balnéaire, et pourtant eh bien, nous sommes au bord de la mer Noire. Mais une plage où on ne se montre pas en maillot de bain si on est une fille turque. Et les cinq sœurs en uniforme le savent bien, mais savent moins qu'elles ne peuvent pas s'amuser le soir des vacances après l'école dans l'eau avec des camarades masculins, en étant accrochées à leurs épaules et tout en gardant leur uniforme et leurs longs cheveux qu'elles trempent dans le bouillon. Elles s'amusent, ne font pas le mal, la séquence apparaît innocente, presque un peu décalée, il y a de la fougue, de l'empressement, de l'amusement. Mais sitôt rentrées chez elles, où leur grand-mère qui les élève bien depuis la mort de leurs parents les attend, les voilà désignées comme des pécheresses. Le groupe des cinq sœurs est confronté aux mœurs d'un village archaïque, où on ne grimpe pas sur les épaules d'un garçon, fût-ce pour s'amuser, et bien sinon on peut être accusé d'y prendre du plaisir, coupable évidemment. À partir de ce moment, la maison de la grand-mère, qu'on imaginait une douce maison, va devenir une sorte de bunker dont elles n'ont pas les clés. La grand-mère qui avoue toute sa peine appelle un de leurs oncles furibard en renfort et les voilà bouclés à double tour. Alors, une fois reclus, la maison est transformée en centre de formation à bonne épouse. Hein. Elles y apprennent à faire manger plutôt qu'aller à l'école. Elles portent des tenues couleur merde, comme les femmes du village. Hein. C'est l'expression de la plus jeune des filles. Hein. Quand elle voit une femme, elle dit « voilà ». T'as une tenue couleur merde. Mais chez ses cinq sœurs, et particulièrement chez la Benjamine, la résignation fait place à un tempérament indomptable et fougueux. Et c'est à l'image du titre Mustang, hein, puisque c'est le nom de ce cheval sauvage qui court dans les grands espaces américains. La réalisatrice a choisi cinq filles aux longs cheveux, qui descendent jusqu'aux fesses, semblables à des crinières. Quand elles parviennent à s'échapper de la maison, parce que leur prison a des failles quand même, eh bien elles cavalent, semblables à un troupeau. Alors on file la métaphore, hein, mais une force de Mustang se situe dans cette énergie qu'elles veulent donner à leur libération. Les adultes qui ne veulent pas comprendre et qui restent figés dans leur tradition vont tout faire pour les marier le plus vite possible. Mariage arrangé contre liberté, il n'y a pas mieux pour soumettre une femme, pensent les hommes. Mais nous sommes eh bien, dans la fable. La lumière qui éclaire les cinq sœurs, leur physique si particulier, semble nous le rappeler. Il se dégage chez elles une sensualité qui aurait pu peut-être gêner hein, si ça n'avait pas été une femme qui réalisait le film. La réalisatrice franco-turque, en montrant les filles en petites culottes, en pleine torpeur, semble nous confronter à une image de la femme, à une sexualité latente. Et en Turquie, tout ce qui a trait à la féminité est ramené à la sexualité. Et si les filles passaient eh bien, de leur uniforme d'école à la tunique marron couleur merde, donc des femmes du village, eh bien, il y aurait beaucoup moins d'inquiétude. Comme ces filles disent non ou pas hein, pour certaines, voilà le nœud dramatique de Mustang. C'est un film captivant hein, qui regarde moins la Turquie que les sociétés rurales enfermées dans leurs certitudes et leurs traditions archaïques. Istanbul est évoqué à plusieurs reprises et c'est à peu près le seul horizon. Mais quand on parle de la Turquie, il y a Istanbul et puis le reste du pays. C'est un désir de liberté, émoi de l'adolescence, sensualité, fougue, modernité contre archaïsme, éducation aussi contre obscurantisme. Mustang porte tout cela. C'est un bel objet cinématographique voulu eh bien, comme une fable. Et la réalisatrice, plus que de citer Virgin Suicide, que j'ai pas vu moi d'ailleurs, mais dont le sujet pourrait se rapprocher, eh bien cite Salo ou les 120 journées de Sodome pour l'espèce de distance que prend Pasolini pour évoquer à travers un conte un peu sordide une société en prise avec le fascisme. Et c'est ce décalage entre forme et fond que recherchait la réalisatrice. Voilà. Mustang est à voir actuellement au cinéma.
C'est un état d'esprit.
Cinérama.
What else?
Chronique, invités et nouvelles du 7e art.
Je t'en prie, cache ta joie.
Alors on continue avec un film de filles, mais cette fois réalisé par un homme, The Duke of Burgundy. Alors Peter Strickland hein, est un réalisateur précieux, singulier et assez énervant en même temps. Un pur esthète qui à travers ses films revisite le cinéma bis des années 70 pour en extraire de manière déformée et dans un élan maniériste les qualités formelles tant décriées à l'époque. Alors Kathleen Varga explorait les terres douteuses du Rap and Revenge, en gros le film de viol avec vengeance à la clé. Et surtout, le splendide Berberian Sound Studio était une réflexion à la fois sensitive et abstraite autour du giallo, ou plutôt du fantastique italien des années 70, dominé par Dario Argento, mais incarné aussi dans des œuvres telles que L'Alliance Invisible, L'Antéchrist ou Émilie, L'Enfant des Ténèbres. Strickland, en toute logique, continue sur sa lancée et se penche cette fois-ci avec The Duke of Burgundy sur le cinéma érotique psychédélique, dominé par des auteurs comme Joseph Soirnaud, Radley Metzger et surtout Jess Franco, dont l'hommage appuyé est plus qu'évident. Alors, toutes les figures stylistiques du trubillon espagnol, hein, Jess Franco donc, auteur de quelques chefs-d'œuvre comme Vampire Lesbos, La Comtesse Perverse ou Vénus in Fur, oui, Des petites tamuses, Marine. Ils sont reprises, déformées, triturées et détournées pour composer au final une œuvre fascinante, souvent hypnotique et parfois hermétique. Alors la trame narrative assez ténue hein, est pourtant simple, évidente. Quelque part en Europe, à une période non identifiable, entre les années 50 et 70, deux femmes s'aiment et se livrent à un rituel SM chaque jour qui se termine par la punition d'Evelyne, la plus jeune des deux. Cynthia semble se lasser de ce jeu éreintant et fétichiste, tandis qu'Evelyne vit ses jeux de l'amour comme une addiction obsessionnelle. Alors le générique est magnifique, porté par l'envoûtante BO du groupe Cat Size, évoque pour mieux bifurquer par la suite l'univers donc du giallo. Alors une ambiance sonore à la Morricone, une jeune fille sur un vélo, des filtres de couleurs qui défilent sans arrêt, des arrêts sur image qui rappellent beaucoup un très beau giallo qui s'appelle Mecca Bebouffé à Solange. Alors on écoute un extrait de la bande originale de Cat Size. Passé ce prologue en trompe-l'œil, hein, Peter Strickland applique sa méthode habituelle fondée sur l'épure et une forme d'abstraction. Il réalise une œuvre érotique mais sans aucune scène de sexe explicite et déploie les motifs visuels et sonores des films les plus expérimentaux de Jesus Franco. Alors flou artistique, mise au point de la caméra lors des plans extérieurs, zoom insistant et répétitif, lumière en clair-obscur, bande-son tantôt douce, tantôt strident, décor surchargé, fétichisme des vêtements avec une insistance maniaque sur la lingerie. On pourrait disserter longtemps sur la façon dont le jeune prodige anglais s'inspire de Jess Franco qui, de sa tombe, n'en demandait peut-être pas autant. La limite consciente par ailleurs de ce cinéma est de rendre un hommage au cinéma bis sous un angle un peu corseté, intellectuel, voire poseur. Il y a un petit côté musée dans cette succession de séquences à la beauté formelle sidérante. D'ailleurs, Strickland n'est pas dupe de son projet. Cynthia est une entomologiste passionnée par les papillons qu'elle collectionne et fiche dans des encadrements, un peu comme le cinéaste qui empile les références jusqu'à saturation et les embaume parfois dans un style un peu précieux et mortifère. C'est là où The Duke of Burgundy se retrouve coincé dans ses afféteries et son maniérisme guindé. Cette histoire d'amour ne retrouve jamais l'esprit libertaire des films cités, leur folie, leur débordement érotique et même leur saine vulgarité comme un bras d'honneur au cinéma classique. Alors Strickland a un talent fou, hein, mais oublie un peu le plaisir. Quand il zoome sur l'entrejambe de Cynthia, c'est pour nous plonger dans les ténèbres. Alors quand Jesus Franco fait la même chose, c'est pour nous transporter du côté de l'ivresse, de l'érotisme et d'une forme de mystère aussi. Alors néanmoins, bon, The Duke of Burgundy échappe au pur objet arty et désincarné, chiant pour être direct, hein, grâce à la présence magnétique, sensuelle et émouvante des deux comédiennes. Alors je ne sais pas si je vais arriver à prononcer le nom de l'une des comédiennes. Sids Babette Knusden et Chiara Dana, voilà, sont magnifiques et apportent un peu de chair et d'émotion, permettant au film d'être davantage qu'un exercice de style clinquant. L'histoire d'amour est sincère, entière et finit quand même par être très émouvante. La force de Peter Strickland, finalement, qui pourrait devenir un immense cinéaste et de ne pas totalement sacrifier ses personnages au profit d'une démarche un peu esthétisante. Hein. Mais je conseille parce que c'est un beau film. Ah oui, il y a un petit hommage pour les amateurs de Jesus Franco. Il y a une actrice qui apparaît, qui s'appelle Lorna, Monica Swin, qu'on voit de loin, une vieille femme et qui a joué dans une quinzaine oui. de films de Jess Franco.
Encore une référence. On s'en transition, c'est Twi'ark maintenant.
Je ne me souviens pas du nom.
Cinérama.
Les hommages.
En 1946, après la capitulation japonaise, la guerre civile fait rage en Chine. Des bandits sans foi ni loi en profitent pour occuper le nord-est du pays. Le seigneur Hawk, surnommé ainsi car il est toujours en compagnie de son faucon qui lui aussi est très cruel, vit retranché avec ses hommes dans une forteresse imprenable au sommet de la montagne du Tigre. L'unité 203 de l'armée de libération décide d'affronter ces criminels et de reprendre la montagne du Tigre grâce au combat mais aussi grâce à la stratégie.
Un an après la défaite du Japon, la Chine sombre dans une terrible guerre civile.
Au nord-est du pays, Dehors-la-Loi pille les villages. Ils n'hésitent pas à tuer ceux qui leur résistent. Grâce à l'arsenal secret japonais dont leur chef s'est emparé, leur puissance ne cesse de croître.
Ils ont 3000 fusils. On n'a pas de quoi se défendre. Tous les autres villages qui se sont défendus se sont fait massacrer par ces bandits.
J'ai bien peur que ceux qui souffrent le plus des combats soient les villageois. Il faut les mettre en sécurité avant que les bandits ne descendent.
Ils arrivent ! Ils arrivent !
Bon, en fait, c'est vrai que je n'avais absolument pas besoin de rappeler ce qui se passait dans le film, puisque tout était déjà dans la bande-annonce. Alors, avertissement, pour ce film, des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la crédulité des spectateurs. Veuillez donc abandonner toute notion de sobriété et de vraisemblance à l'entrée de la salle. Tsui Hark, surnommé le Spielberg asiatique, rend ici un vibrant hommage au cinéma d'aventure et quelque peu propagandiste, il est vrai. Tout est trop dans ce film fleuve au manichéisme assumé, qui est à l'allègrement un mauvais goût assez fascinant, mais en même temps, tout cela est fait avec un tel amour du cinéma que l'on ne peut que se laisser emporter. Les costumes kitsch, les acteurs qui surjouent, leur maquillage outrancier font presque penser au péplum des années 40, avec une image aux teintes saturées qui évoque les films en technicolor et cerise sur le gâteau. Tsui Hark est quand même bien le seul à oser faire du bullet time encore en 2015. Mais bon, c'est aussi une façon de rendre hommage au cinéma hongkongais en rappelant que c'est bien Matrix qui s'en est inspiré et non l'inverse, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Les effets spéciaux ultra grossiers, hein, mention spéciale à la prestation du tigre numérique, qui est quand même assez catastrophique, sont là pour rappeler aux spectateurs la volonté première du film, être un grand spectacle, épique et historique, plein de verve patriote, qui se soucie peu d'être crédible. Tsui Hark fait une proposition de cinéma jusqu'au boutiste, à laquelle on adhère ou pas, une grande fresque de divertissement pur, dont les plans très inspirés vont de l'audace visuelle jusqu'à la surenchère indigeste, hein, c'est selon. Alors voilà, le tout est évidemment à prendre au 36e degré. Moi, j'ai trouvé ça très bon, je me suis beaucoup marrée, parce que c'est involontairement très comique. C'est très long, mais en même temps, voilà, je trouve que c'est un très beau spectacle, on en prend plein les yeux.
En même temps, si on compare les effets spéciaux de Jurassic World et ceux de Tsui Hark, il y a à peu près 55 millions de différences, non ?
Bah voilà, probablement. Peu près, oui.
Mais il a toujours expérimenté des effets spéciaux délirants de Tsui Hark, et moi, j'aime bien justement ce côté très voyant, très kitsch. Il assume complètement... Le côté kitsch et bidon de ses effets.
Peut-être un peu raté, ouais.
Donc voilà, la bataille de la montagne du tigre était déjà sortie depuis une semaine. Et par contre, c'est à voir absolument en VO, parce que malheureusement, il le passe souvent en VF. Voilà.
Un petit Corman, sinon rien.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama.
On va regarder ça.
Alors après l'attaque des crabes géants, je continue à explorer les tréfonds du Z de l'ami Roger dans un registre similaire avec la créature de la mer hantée, hallucinant nanar qui navigue en eau trouble entre parodie et kitscherie. Dès les premières minutes, avec la présentation d'un agent secret idiot, on se demande si tout cela est bien raisonnable. Prétextant une vague intrigue autour de mercenaires transportant sur un bateau des Cubains fuyant le régime castriste, ce joyeux délire se permet tout et n'importe quoi. Sur une île déserte, le héros trouve une cabine téléphonique. Un autre rencontre une nymphomane, tandis qu'un des mercenaires est le roi des imitateurs d'animaux, coqs, lions, etc. C'est assez stupéfiant. La trame scénaristique se permet les rebondissements les plus invraisemblables. Un faux monstre peut en cacher un autre. Les gags mongoloïdes et les dialogues surréalistes. Mais le clou du spectacle est assurément la créature en question qui hante effectivement le fond des mers. Un sac plastique noir en guise de faciès, quelques algues en caoutchouc et deux gros machins blancs pour les yeux. Et le tour est joué pour rentrer au panthéon du best-of des Cranios Monsters. J'ai même cru remarquer, à moins que ma mémoire ne me trompasse, je ne sais pas si on dit trompasse, je ne sais pas, c'est pas grave, que ce monstre aquatique possédait une sorte de sourire niais à faire pâlir Dwayne Johnson. Alors visiblement conscient de l'aspect ridicule des effets spéciaux et des maquillages, Corman a pris d'entrée les devants en ne se prenant pas une minute au sérieux. Un très bon nanar.
Et donc ça c'était un double programme, hein. C'était dans ce cadre-là que tu avais parlé
de ces films.
Oui,
parce que c'est des films qui font généralement un peu moins d'une heure en fait.
Tu voulais ajouter Marine ? Pas du tout. J'ai cru voir une main levée.
C'est l'or. Il est l'or.
Il n'y en a pas pour longtemps.
Bien, ouvre tes oreilles.
Sors de ta connerie, sacré bon Dieu ! Sinon, moi, je te dévisse la tête et je te chie dans le cou !
Ça doit être une erreur dans l'enchaînement des flashbacks. Ça devrait pas trop durer.
Ce sera la fin de la semaine prochaine, vraisemblablement, de Cinérama. Et on aura quoi comme programme ?
Alors moi, je reviendrai un peu sur mon créneau féministe que j'avais abandonné pendant au moins une semaine. Je vous parlerai d'un film indien qui s'appelle Masan.
Et toi, Manu ?
Oh, je pense que j'irai voir Poltergeist, le remake du film de Tobe Looper.
Cinérama.
Il n'y a que des combines. Il n'y a pas de héros.
Rien que des combines. Y a pas de gagneurs, rien que des combines et de la merde. Y a pas de saints, y a pas de génie, rien que des combines et des contes de fées, ça fait durer la partie.
Sur Divergence FM. Divergence.